Espace public, Sébastien Lecoeur, Laure Milan.
Et ouverture de la partie magazine d'Espace public ce soir. Parmi les nombreux avantages du métier d'animateur radio, il y a celui de rencontrer, de découvrir parfois de jeunes artistes pour lesquels nous avons de véritables coups de cœur. Un coup de cœur qui, je l'espère, sera partagé ce soir. Un coup de cœur pour notre invité, Laure Milan. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Bleu Creuse. Nous allons passer toute cette émission ensemble pour vous découvrir avant d'aller vous applaudir sur scène, puisque vous serez en première partie du concert de Diams ce vendredi à Limoges. Une artiste avec laquelle vous avez une belle histoire, on va y revenir. Pour commencer, l'histoire de Laure Milan débute au mois de novembre 1980 à Hoche dans le Gers. Je ne dis pas de bêtises. Alors, votre cursus, lui, c'est quoi? Un bac littéraire, un premier emploi d'assistante commerciale. Ça veut dire que c'était votre première voie professionnelle? C'était une vocation ou c'était un peu par défaut?
Non, c'était par défaut. C'était qu'il fallait trouver un travail sur Paris et je trouvais que le téléphone, répondre au téléphone et taper des courriers, c'était plus ou moins facile pour moi. Donc, j'ai fait assistante commerciale. Surtout pour payer un loyer sur Paris.
Évidemment, et on connaît les difficultés que ça engendre. Laure Milan et la musique, c'est d'abord le piano et les cours de chant, si mes infos sont bonnes. Comment ça s'est passé, les premiers pas dans cet univers musical?
En fait, je pense que ma mère a toujours aimé la musique, donc comme toutes les mamans qui n'ont pas pu voir leurs rêves se réaliser, elle m'a inscrite à des cours de piano à 4 ans pour que ça facilite mon goût pour la musique et que je le partage avec elle. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé chanter depuis toute petite. Grâce au piano, j'ai appris le solfège, j'ai appris énormément de choses. Donc ça m'a aidé, je pense, pour la suite.
Avec beaucoup de gratitude pour tous ceux qui vous ont accompagné sur ce parcours, monsieur et madame Benjamin, Lino et tous les autres.
Exact, oui. Très bien renseigné.
C'est une formation qui s'est étalée sur combien de temps, cette formation musicale?
J'ai pris 10 ans de cours de piano et 2 ans de cours de guitare. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aime surtout faire des mélodies et écrire des textes. Donc, les instruments, c'est pas quelque chose que je pratique régulièrement, en tout cas pas assez pour pouvoir m'accompagner sur scène.
C'est aussi sur cette période-là qu'a commencé à se dessiner un petit peu votre univers artistique?
Non, je pense que c'est plus tard. Je pense que c'est plus tard, parce que moi, en fait, mes premières maquettes, c'était un petit peu du R&B, ensuite j'essayais de la variété française. Je me cherchais encore, parce que comme j'écoute beaucoup de musique, je ne savais pas exactement ce que moi je voulais faire. Et il se trouve que j'ai rencontré mon guitariste il y a 2 ans, et c'est avec lui que j'ai réussi à trouver la couleur, en fait, de la musique que je savais le mieux faire.
Oui, c'est vrai que vous avez des influences qui sont vraiment très diverses. Il y a beaucoup d'artistes, vous ne vous cachez pas, au contraire, hein, le fait d'aimer cette diversité.
Non, je pense que c'est une force, hein, la diversité. Hein. C'est comme le métissage, hein, c'est une force.
Ça veut dire que ça passe par quoi, ces influences? Par quels artistes?
La première, ça a été Mariah Carey, qui a bercé toute ma jeunesse. Ensuite, il y a eu beaucoup de groupes féminins de R&B américains, beaucoup de variétés françaises, qui ça va de Liane Folly à Patrick Bruel, en passant par des groupes de rap comme Arsenic. C'est très, très diversifié, on va dire.
Et tous ces styles, tous ces artistes-là se retrouvent aujourd'hui dans votre travail, notamment dans votre premier album dont on parlera tout à l'heure?
Je pense qu'il y a quelques influences qu'on retrouve. C'est pas du copier-coller, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des choses qui se retrouvent dans la musique.
Vraiment. Alors, on parlera de ce travail dans quelques minutes. Auparavant, je parlais de vos parents tout à l'heure. Comment ça s'est passé avec eux, le moment où on annonce au papa et à la maman, moi, je veux vivre de la musique?
Mes parents sont des gens assez ouverts, donc ça n'a pas été un gros souci de leur faire accepter que je voulais être chanteuse. La chose la plus dure, ça a été de leur annoncer que je partais à vivre à Paris. À 18 ans, c'est pas évident de laisser son enfant partir dans une ville aussi grande que Paris, et puis surtout sans revenus, sans famille. C'est surtout ça, en fait. Mais la musique, ils étaient plutôt... ils n'étaient pas contre, mais ils n'étaient pas pour. Ils n'avaient pas d'avis, en fait.
Mais ils vous ont laissé vivre votre rêve, en tout cas?
Ils me regardaient faire, en tout cas. Ils ne m'ont pas mis de bâton dans les roues, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et financièrement, ils m'ont aidé, donc forcément, j'ai pu rester sur Paris et enfin vivre de ma musique.
Alors, vous avez quitté votre ville natale, c'était en l'an 2000, alors que la Starac s'apprêtait à voir le jour. On reviendra tout à l'heure sur cette télé-réalité. Il n'y avait pas encore de surmédiatisation des jeunes talents. Comment vous imaginiez votre arrivée dans ce métier avant même d'arriver sur Paris?
Moi, je pensais que ça allait être vachement plus facile que ça. Je suis montée à Paris en 99 à peu près, et on est en 2006 et je viens juste de sortir l'album. Je pensais pas que ça mettrait autant de temps. Mais il se trouve que la télé-réalité a fait que les artistes qui ne passent pas par la télé-réalité ont plus de mal à s'imposer. Donc ça m'a pas aidé. En tout cas, ça n'a pas aidé les artistes comme moi, la télé-réalité.
Vous auriez dû arriver plus tôt, selon vous?
J'aurais aimé arriver plus tôt et je pense que oui, j'avais les morceaux qu'il fallait à l'époque aussi. Maintenant, je regrette rien parce que c'est vrai que j'ai jamais été vraiment prête. On n'est jamais vraiment prêt à sortir un album. C'est difficile.
C'était peut-être un jour de pluie où les regards restent à l'abri.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Laure Milan.
Laure Milan, on l'a dit tout à l'heure, 99-2000, c'est donc votre arrivée à Paris. C'est pas tout d'abord comme chanteuse que vous allez vous faire remarquer, mais plutôt comme auteur pour d'autres artistes. On va y revenir dans un instant. Simplement, ça veut dire qu'avant même de vouloir prendre le micro, pour vous, c'était la passion et le plaisir de la plume avant tout qui vous guidait?
Non, c'était en parallèle. Dès que je suis montée sur Paris, j'ai commencé mes propres maquettes. Moi, je voulais chanter en solo. Je voulais vraiment faire que ça. Je voulais sortir un album. Il se trouve que ça a pris du temps, donc je me suis rendu compte que je pouvais aussi proposer mes morceaux à d'autres. C'est ce que j'ai fait, tout simplement.
Et les premiers écrits, eux, ça remonte il y a déjà bien longtemps?
J'avais 13 ans. Mon premier morceau, c'était sur mon arrière-grand-mère.
Ça veut dire qu'il reste encore aujourd'hui des cahiers de collégienne, de lycéenne, Laure Milan, avec les premiers textes griffonnés dans les coins?
Dans la cave de mes parents, certainement, ouais. Il y a surtout des petites cassettes où j'avais 5 ans et je chantais déjà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des chansons qui me suivent depuis 5-6 ans, comme le morceau qui a été écrit par Tams, que j'ai rencontré en 2002. Mais il y a des morceaux, c'est vrai, que j'ai maquetté il y a 5-6 ans et qui sont sur l'album, qui m'ont suivi jusque-là.
Alors justement, vous parlez de la rencontre avec Diams et ces rencontres, voilà, c'est ce qui a été très important pour vous lorsque vous êtes arrivé à Paris. Quel souvenir, comment ça s'est passé, premier contact avec la scène hip-hop parisienne?
Très bon contact avec la scène hip-hop, c'est beaucoup du bouche à oreille en fait dans ce milieu. Donc j'ai été amenée à faire des chœurs pour un artiste, puis pour un autre, etc. J'ai fait aussi des tournées avec Singila ou Allen. Donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir trouver ma place et de pouvoir m'imposer en tant que choriste, parce que ça m'a vachement aidé dans le métier en vrai, à acquérir une expérience et puis une certaine aisance aussi sur scène et en studio. Mais la rencontre avec Diams, elle s'est fait juste après avoir écouté des maquettes à moi en fait. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit voilà, j'aime bien ta voix et j'écris des morceaux, et je compose mais je chante pas, et je pense que c'est des morceaux pour des chanteuses dont on s'est rencontrés et depuis on s'est plus quittés, et j'ai gardé ce morceau-là sur l'album.
Et on parlera tout à l'heure de ce morceau et on le découvrira également. Ces rencontres-là donc ont été fortes. Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être des préjugés et des clichés à combattre lorsque vous êtes arrivé, vous, du Gers et non pas du 9-3 pour intégrer cette scène hip-hop?
Non, sincèrement, j'ai été super bien accueillie. J'ai ramené peut-être fraîcheur avec moi puisque j'avais l'accent à l'époque. Je l'ai plus malheureusement, mais non, ça a ramené une petite gaieté, quoi.
Comment vous avez perdu l'accent? C'est de trop fréquenter l'univers parisien?
Ouais, je pense, et d'avoir travaillé dans la téléphonie mobile aussi.
Oui, il faut tout gommer.
Ben, je sais pas. J'ai pas voulu, hein. C'était pas volontaire de ma part.
Alors, au sujet de ces rencontres, il y a eu Diams, évidemment, et on va y revenir parce que ça, c'est une rencontre très importante. Et puis, il y a eu d'autres artistes, à la fois francophones, également des artistes internationaux. Vous nous racontez un petit peu ces rencontres différentes et puis qui vous ont apporté des choses très diverses aussi?
Il y a eu beaucoup de premières parties depuis ces deux dernières années. J'ai eu la chance de faire la première partie de Lorini à Bercy, de Daniel Potter, de Craig David. Donc, c'est vrai que j'ai été amenée à les rencontrer et c'est super enrichissant de les voir sur scène, ces gens-là, parce que c'est dans leur culture, la musique, la scène, la soul. Donc pour ma propre expérience, le fait d'avoir fait d'abord des premières parties, ça m'a énormément aidée. Et je continue d'ailleurs de faire des premières parties comme celle de Diam. Sinon, j'ai pu rencontrer aussi d'autres artistes comme Amel Bent ou Myriam Abel pour qui j'ai écrit. Ça, c'est pareil, ça apporte une force, le fait d'entendre ces chansons interprétées par d'autres et de pouvoir collaborer, voilà.
Pour vous, c'est important donc d'être en première partie. C'est une expérience que vous vous forgez avant. On vous le souhaite évidemment de vous retrouver en tête d'affiche.
Oui, c'est vraiment plus dur de se retrouver en première partie qu'en tête d'affiche, forcément, parce qu'on n'est pas du tout attendu, que des fois le style de musique qu'on fait ne correspond pas au style de musique que les gens dans la salle écoutent. Donc c'est un gros challenge d'être en première partie. Et si jusqu'à aujourd'hui j'arrive à dépasser cette peur et cette angoisse de ne pas être à la hauteur sur scène, bah, ça peut être bénéfique pour la suite et pour mes propres scènes.
Et comment on se retrouve en première partie? Qui décide que Laure Millan sera en première partie de Gage, de Lauryn Hill, de Corneille?
Alors ça dépend en fait des artistes. Pour les artistes américains, c'est les tourneurs qui décident. Mais pour les artistes comme Gage et Corneille, c'est eux qui ont décidé, qui m'ont demandé en fait.
Qui vous mettent le pied à l'étrier et qui vous aident.
Ouais.
C'est très important. Ça veut dire aussi que c'est important, au-delà d'être en première partie d'un artiste, mais de se balader aussi sur la France et de prendre un petit peu la température de comment les chansons qu'on a signées sont reçues par le public.
Bien sûr, ouais. De toute façon, la scène, c'est le meilleur moyen de savoir ce qui touche les gens, ce qui les fait réagir. Donc, c'est le pied, quoi, la scène. Et qui plus est, de pouvoir partir dans la France, voir si en Bretagne, ils aiment les mêmes chansons que... qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quoi.
Et c'est le cas ?
Non, c'est pas le cas. Sincèrement, c'est pas le cas. Le public n'est pas le même suivant les régions. Et je pourrais pas expliquer pourquoi.
Laure Millan. Dance.
Comme un diamant, duo entre Diams et sa grande copine, Laure Millan, cet extrait du dernier album, de cette dernière, premier album d'ailleurs, qui s'appelle LM, Laure Millan et son album. Nous continuerons de les découvrir dans la deuxième partie de cette émission, entre 18h30 et 19h. Et puis, je vous le rappelle, si vous aimez l'univers artistique de Laure Millan, eh bien, ne bougez pas, puisque juste avant 19h, Laure vous offrira son album. Et puis, nous vous offrirons également, au passage, quelques exemplaires du dernier Diams. Dans ma bulle, version limitée, avec également un DVD du making-of de l'album. Tout cela, ce sera donc un tout petit peu avant 19h. Encore un tout petit peu de patience.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Laure Millan.
Alors Laure Millan, on va parler un peu de votre personnalité. Selon mes informations, on vous dit plutôt sensible, avec une fraîcheur naturelle dans votre univers, dans vos textes. On s'en rend compte d'ailleurs quand on découvre votre album LM, dont on parlera tout à l'heure. C'est une volonté pour vous, une marque de fabrique, de faire des textes, j'ai envie de dire, ni totalement futiles, ni totalement sombres. C'est ce qui séduit chez vous?
Oui, je pense que ce qui séduit, c'est que je parle de ma propre vie, de mes histoires d'amour, de mon parcours, et que j'essaie de trouver des mots justes et simples, sans trop compliquer les choses, pour qu'on arrive à me comprendre et à s'identifier aussi.
Sur cet album, c'est un peu une histoire que l'on suit de la première à la dernière chanson, avec des petits interludes qui sont signés Sarah Forestier, mais on en parlera tout à l'heure. C'était l'envie de vous raconter, peut-être pour un premier contact avec le public, de vous présenter à eux?
Oui, c'était une envie d'écrire ce que je ressentais au moment où je l'ai ressenté. Et puis l'histoire de Sarah, c'est j'ai voulu faire une espèce de journal intime de cet album, et que j'ai voulu tout simplement lier les morceaux avec des anecdotes qui me sont plus ou moins arrivées en fait.
C'est aussi une tendance, j'ai envie de dire, de la nouvelle génération d'artistes français qui souhaitent faire de la chanson à texte un peu différemment pour faire passer des messages. Il y en a dans votre album, notamment sur l'excellente Plus de pleurs que de mal. Faire passer des messages sans pour autant être ni trop pessimiste ni moralisateur.
Oui, parce que je trouve qu'il y a des gens qui savent très bien le faire, parler de politique dans leurs morceaux, ou raconter des choses qui touchent au social par exemple. Et moi, c'est quelque chose pour l'instant qui ne m'émane pas de moi, naturellement. Quand je suis inspirée, c'est sur l'amour, donc pour l'instant j'écris des choses plus personnelles, et peut-être qu'avec le temps j'écrirai d'autres choses, je ne sais pas du tout.
C'est un album de présentation, celui-ci, que l'on découvre également.
Il faut bien.
Effectivement, il faut faire les choses dans l'ordre. Vous définissez aussi, notamment comme têtu et plutôt maniaque dans vos défauts. C'est des défauts qui, finalement, peuvent s'avérer des qualités dans ce métier, avec notamment une grande rigueur, une recherche de perfection, la volonté de ne jamais se trahir coûte que coûte lorsqu'on écrit ses propres textes.
C'est vrai que ça peut être des qualités, dans la musique en tout cas. le souci de perfection et du fait que effectivement si j'ai pas fait la télé-réalité, c'est parce que je voulais pas qu'on m'impose un style, je voulais pas qu'on m'impose une équipe. Donc ça peut être qualité. Mais bon.
Mais au quotidien, ouais, non.
C'est un maniaque au quotidien.
Ça, c'est un petit message pour votre entourage. Si vous reconnaissez les choses, c'est bien.
Il faut.
Vous parliez de la télé-réalité, justement. J'allais vous demander si c'était quelque chose qui pourrait vous convenir, puisque vous l'avez dit, parmi les artistes pour lesquels vous avez signé des textes, il y a Amel Bent, il y a Myriam Abel, qui sont passés par la Nouvelle Star, en l'occurrence, mais donc par de la télé-réalité. Vous, ça veut dire que même dans le pire des cas, vous montiez à Paris, il y avait cette difficulté à percer. C'est vraiment quelque chose que vous n'auriez pas pu faire, de passer par une émission comme celle-là?
À la Starac, j'aurais pas pu. La Nouvelle Star, ça aurait été un peu plus... Oui, j'aurais pu le faire, la Nouvelle Star, puisque c'est quand même un casting. C'est pas du voyeurisme, quoi, la Nouvelle Star.
On est moins exposé.
On est moins exposé, ouais. Notre vie personnelle est moins exposée à la Nouvelle Star qu'à la Starac. Et j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, que les artistes qui gagnent la Nouvelle Star ont plus de liberté pour leur album.
Et
ça, c'est le cas d'Amel.
Voilà, en l'occurrence, Amel qui n'a même pas gagné effectivement la Nouvelle Star et qui se retrouve pourtant avec un très très joli succès. Ça veut dire que pour vous, quand on sort de la télé-réalité, on est plus fragile que lorsque l'on s'est forgé, notamment un parcours fait de première partie?
Oui, parce qu'on est moins préparé. Parce que ça arrive souvent du jour au lendemain. Ceux qui ont gagné, en tout cas, ils ont gagné jeune. Et on n'a pas, entre guillemets, galéré avant. Voilà, moi j'ai écumé les petites scènes, les chœurs, j'ai fait au moins 50 maquettes. Donc c'est vrai que je sais ce que ça fait d'attendre et de trébucher, quoi.
Et puis on sent aussi que le phénomène s'essouffle un petit peu. Hein. On voit bien que les différents gagnants de ces émissions de télé-réalité sont de moins en moins suivis par le public, avec des ventes d'albums qui baissent. Donc pour vous, vaut mieux commencer doucement et assurer le coup, transformer l'essai en quelque sorte.
Bah, en tout cas, oui, pour mon style de musique, oui. Maintenant, je pense qu'Amel, elle a eu raison de faire une nouvelle star.
Votre univers musical, c'est peut-être aussi quelque chose qui ne serait pas rentré dans le cadre d'une émission de télé-réalité. C'est un univers musical qui n'est pas encore suffisamment grand public, en tous les cas selon les médias.
Oui, selon les médias, c'est un peu le cul entre deux chaises, en fait. C'est de la musique acoustique, un peu mature, qui mélange soul et pop, mais pourtant qui s'adresse à des jeunes d'une vingtaine d'années. Donc c'est assez paradoxal pour eux et ils ont du mal à me placer.
Ça veut dire que vous auriez dû vous trahir de toute façon si vous étiez passé par ce type de programme.
Peut-être, ouais. Peut-être. Alors ça aurait été plus dur pour moi.
Et vous le disiez tout à l'heure, si aujourd'hui ce phénomène existe fortement et on a l'impression que les seuls jeunes artistes et les seuls nouveaux talents sortent de ces émissions de télé-réalité, ça veut dire que ceux qui n'y passent pas, comme vous, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui d'émerger et d'être aidé par des majors, des grandes maisons de disques.
Ça dépend. Après, ça dépend le style de musique qu'on fait, hein.
Ça veut dire que dans votre cas, vous êtes encore relativement préservé ou pas?
Dans mon cas, c'est dur. C'est dur parce qu'avant moi, il y a eu Gage et Corneille qui font à peu près le même style de musique que moi. Et à part eux, il n'y a personne d'autre. Et c'est difficile d'avoir des radios commerciales avec ce style de musique.
Ça veut dire qu'on ne vous dit même pas c'est Corneille au féminin. Donc finalement, ça c'est quelque chose quand même qu'on n'a pas encore sur la scène française?
Bah, si, c'est vrai que c'est le compliment qu'on me fait et je suis bien contente parce que j'aime beaucoup ce que fait Corneille et j'aimerais bien avoir sa carrière en tout cas, mais c'est pas pour autant que ça facilite mon passage radio ou ça facilite moi dans les médias.
Par ici les tours cachent un soleil qui ne se lèvera pas, car
Espace public, Sébastien Lecoeur, Laure Milan.
Votre actualité, Laure Milan, c'est donc ce premier album, LM. Il est sorti il y a quelques semaines à peine. LM comme Laure Milan, comme Elle est amoureuse. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment autobiographique.
Exact, oui.
Ce sont vos inspirations principales, hein, d'ailleurs, l'amour, principalement, les femmes également.
C'est vrai, ouais. Bah ouais, représenter un petit peu ma génération, parler de de ce qui touche les femmes. Ouais, c'est vrai.
Vous avez un blog, d'ailleurs, sur Internet, sur lequel vous dialoguez régulièrement avec vos femmes, notamment vos fans féminines, qui vous remercient de prendre la parole pour elles, qui vous disent souvent que vous les comprenez parfaitement. Vous vous sentez quasiment un rôle un peu d'ambassadrice.
Oh, d'ambassadrice, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que je suis contente quand on me dit que mon morceau a servi, par exemple, à faire revenir leur ex, ou que ça a servi à prendre conscience que finalement il fallait garder espoir en amour ou autre chose. Ouais, je suis assez contente quand on me dit que mes morceaux servent à quelque chose et que ce que je chante fait du bien aussi.
Et vous parlez de relations amoureuses entre les hommes et les femmes. Il y a aussi le combat, j'ai presque envie de dire un combat féministe. Je parlais tout à l'heure de cette chanson « Plus de pleurs que de mal ». Là aussi, c'est quelque chose que vous avez envie de défendre.
Ouais, parce que je trouve que les rapports entre hommes et femmes se dégradent. C'est très, très difficile aujourd'hui de trouver l'âme sœur, que la solitude pèse et qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent espoir, quoi. Donc, c'est pas un combat contre les hommes, mais j'essaie de dire que ça serait bien qu'on se rapproche un petit peu.
C'est pas contre les hommes, c'est pour les femmes, on va dire.
Ouais, c'est pour les femmes. Et les hommes aussi.
Voilà,
Les femmes sont heureuses, les hommes le seront aussi.
Effectivement. Et c'est un album donc très orienté sur le thème de l'amour. Pour vous, c'est quoi? C'est parce que c'est un thème universel? C'est aussi parce que c'est intemporel? Ou c'est avant tout, pourquoi pas, une sensibilité de femme et que les femmes ont plus tendance à parler d'amour dans leurs albums que les hommes?
Ben ouais, je pense que c'est plutôt ça, ouais. Plutôt le fait que quand je prends ma plume, tout ce dont j'ai envie de parler, c'est de mes amours, de mes espoirs amoureux, ouais. C'est plutôt ça, le fait que les femmes parlent plus facilement d'amour et plus souvent d'amour que les hommes.
Je l'ai dit tout à l'heure, les transitions entre les chansons, quasiment entre chaque chanson, vous les avez confiées à Sarah Forestier. Oui. Vous lui faites dire notamment que vous séduisez les garçons en leur faisant des gâteaux au chocolat. Pourquoi les filles à la guitare, ça séduit moins les garçons que dans l'autre sens?
Bah oui, surtout que j'en joue pas très très bien. Donc mes gâteaux au chocolat ont plus de succès que... mon jeu à la guitare.
Ah, votre jeu à la guitare est plutôt pas mal quand même.
Vous l'avez pas entendu.
J'ai hâte de découvrir le gâteau au chocolat quand même. C'était une façon de vous le dire. Je vous donnerai les coordonnées de la radio dans quelques minutes.
D'accord.
Dans l'album, en tous les cas, on va y revenir forcément. Il y a un duo avec Diams. Oui. Le disque de Diams, l'album de Diams est d'ailleurs en photo sur la pochette de votre album. C'est une pochette qui reconstitue un peu une chambre d'ado, j'ai envie de dire.
Ouais.
Hein, c'est quoi? C'est un côté proximité, un côté romantique que vous avez eu envie de donner aussi à l'album?
Ouais, et puis aussi dire que mon inspiration vient souvent quand je suis toute seule dans ma chambre. Moi, je suis très casanière, j'adore rester chez moi, écouter des albums, lire un peu, et puis surtout écrire. C'est pour ça que la pochette représente assez bien ce que je fais de ma vie.
Donc c'est un album vraiment qui vous ressemble quand on écoute cet album, et on l'a dit, hein, qui raconte vraiment une histoire. On connaît vraiment bien qui est Laure Millan.
Oui. On peut dire ça. C'est mon parcours de mes 18 ans à mes 26 ans. Donc si on m'écoute et qu'on est entre les lignes, je pense qu'on peut arriver à connaître un petit peu ma vie. Ouais.
Et à la question, quel est le plus beau moment de votre vie? Vous répondez qu'il n'est pas encore arrivé? Toujours
non.
Pas?
Je pense que c'est un mariage ou un enfant.
C'est au-delà de la carrière professionnelle.
Ouais, c'est au-delà, ouais.
Mais c'est quand même de très beaux moments, notamment donc sur scène. On l'a dit tout à l'heure, hein, première partie de Gage, de Lauryn Hill, de Corneille, Craig David, Daniel Potter et d'autres. Pour vous, aujourd'hui, même si vous n'êtes encore qu'au stade de la première partie et on vous souhaite une tournée propre dans quelques temps, la scène, c'est désormais un incontournable?
Oui, un incontournable. Sincèrement, je suis comme chez moi sur scène, même si j'ai toujours une appréhension avant de monter. Après les 4 contre-accords, je suis dans mon élément. Donc c'est le meilleur moyen de communiquer avec son public et d'être en communion avec lui. Donc c'est vraiment la scène.
Et donc on va venir vous découvrir et vous applaudir ce vendredi, puisque vous serez donc en première partie de Diams cette fois-ci lors de ce concert prévu au Palais des Sports de Limoges à partir de 20h. Le fait d'être en première partie de Diams, malgré tout ce que vous avez déjà fait, là c'est on va dire encore un peu plus particulier.
Ben ouais, c'est impressionnant que c'est la tournée des Zéniths, que souvent c'est complet.
C'est le cas sur Limoges.
Le public de Diams crie énormément, donc ça met une pression énorme. Je sais pas, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Et puis surtout, c'est mon amie, donc je suis super, super heureuse pour elle de savoir qu'elle remplit des salles comme ça. Et Voilà, c'est un beau moment d'amitié qu'on partage en tout cas.
Et c'est un avant-goût, on vous le souhaite en tous les cas, d'une propre tournée dans quelques mois, à l'issue de ce premier album, voire même du second que l'on espère également pour vous. L'album, on en a écouté de nombreux morceaux ce soir, mais je crois que pour aller un petit peu plus loin, le découvrir en entier, chronologiquement, pour découvrir donc votre histoire de vos 18 ans jusqu'à aujourd'hui, une petite surprise pour tous ceux qui nous sont fidèles depuis 18 heures.
Donc j'offre l'album au plus rapide d'entre vous.
Ah bah écoutez, voilà un bien joli cadeau. Et puis alors moi je vais même rajouter, on va dire, la cerise sur le gâteau, puisqu'on a beaucoup parlé de Diams et que vous serez toutes les deux vendredi à Limoges. Pour les deux premiers qui seront avec nous, il y aura non seulement votre album, mais également l'édition limitée de Dans ma bulle, le dernier album de Diams.
Cadeau, ça.
Voilà, comme ça les deux copines sont réunies pour les deux plus rapides. Et pour les autres, eh bien il y aura votre album LM sorti chez Mercury. Et pour cela, vous nous appelez au 05 55 52 37 38. Merci beaucoup en tout cas Laure Milan d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Une toute dernière question avant de nous séparer sur de nombreuses photos de l'album. On vous voit avec une petite clé autour du cou. Couvre-t-elle ?
Le cadenas de mon journal intime.
D'accord, avec toutes vos pensées les plus secrètes. Elle ouvre aussi un peu donc votre cœur en quelque sorte.
En quelque sorte, oui.
Eh bien écoutez, on découvre qui est Laure Milan en détail dans ce premier album, LM. On se sépare ensemble sur un extrait de l'album. Vous choisissez le morceau, celui qui vous tient peut-être le plus à cœur.
Ben écoutez, pourquoi pas Plus de pleurs ?
Plus de pleurs que de mal ?
Oui.
Une jolie chanson, on en a beaucoup parlé. C'est mon coup de cœur, j'ai envie de le dire concrètement dans cet album. On écoute ensemble. Merci beaucoup Laure Milan d'avoir été avec nous. Bon spectacle pour vendredi et puis une très très belle carrière à vous.
À bientôt j'espère.
Au revoir.
Au revoir. C'est moi l'île que...